depuis longtemps. » Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit, « Vous auriez dû m'obéir et ne pas partir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit. Il m'a dit, « Sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. » Je tire ces paroles du milieu d'un épisode particulièrement intéressant et captivant à lire. Il s'agit du naufrage de l'apôtre Paul. Revenons toutefois en arrière pendant quelques instants pour comprendre de quoi il s'agit et pourquoi Paul se trouve dans cette situation. Lorsque vous lisez la suite dans les actes, à partir d'acte 18 jusqu'à acte 27, jusqu'à la fin pratiquement, nous voyons une chose qui nous étonne. C'est que Paul, ce juif orthodoxe, on va dire, ce juif vraiment légaliste, qui haïssait les chrétiens et qui a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, va avoir à un moment donné, après ses premiers voyages, le deuxième voyage, le troisième voyage, et au cours de ce troisième voyage, il va dire « Il faut que j'aille à Jérusalem ». Il va dire ça dans acte 18 et au verset 21. Et puis après, un peu plus loin, verset 10, chapitre 19-21, il est dit de nouveau qu'il forme le projet pour aller à Jérusalem. Il avait donc à cœur de retourner là-bas pour différentes raisons. Il y avait quelques membres de sa famille, nous dit la parole, qui habitaient Jérusalem, dont sa sœur et son neveu. Mais pour tout juif, Jérusalem compte énormément. Jérusalem, c'est la ville sainte, c'est la ville élue. Il a une affection particulière pour Jérusalem. Il était aussi venu, il faut le dire en passant, pour apporter des offrandes à l'église qui était appauvrie à Jérusalem. L'apôtre des païens, tellement touché par la condition des juifs. Dieu lui avait clairement dit, tu seras l'apôtre des païens. Mais en même temps, il va dire, nous le lisons dans Romains 9, « Je voudrais être anathème et séparé de Christ pour mes frères, les Juifs. » Il va dire aussi au chapitre 10, verset 1, « Le vœu et ma prière, c'est qu'ils soient sauvés. » Donc Paul va former le projet d'aller dans l'endroit le plus difficile, le plus compliqué, le plus dangereux pour lui, il le sait. Il va former le projet d'aller encore une fois, peut-être une dernière fois, un ultime essai de témoignage, croyant que son témoignage de conversion va avoir une résonance et un impact dans cette fameuse ville de Jérusalem, tellement dans les lois, dans la religion. Et en y retournant tranquillement, d'étape en étape, il va recevoir des prophéties. Il va recevoir des prophéties. Paul, si tu retournes là-bas, tu vas avoir des problèmes. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va le lier, un prophète qui va le lier avec sa ceinture pour lui montrer « voilà ce qui va t'arriver ». Mais malgré ça, la conviction dans son cœur est tellement forte, l'amour dans son cœur pour son peuple est tellement fort qu'il dépasse tous les avertissements. Bien sûr, Paul aurait pu dire « Ok, puisque Dieu me parle dans ce sens, je ne vais pas y aller. » On pourrait faire une discussion et voir tout un culte et travailler le pourquoi, la raison de ce que Paul a quand même persisté malgré les prophéties d'avertissement. Mais en fait, ces prophéties l'ont préparé à quelque chose qui avait été fortement dans son cœur et que la parole aussi dit « Tu vas être témoin à Jérusalem ». Puis à un moment donné, Dieu va dire « Sors de cette ville, dépêche-toi de sortir parce qu'ils en veulent à ta vie ». Il y avait une intention de Dieu, il y avait toute une préparation et des avertissements qui suivaient. Frères et sœurs, lorsque nous avons une conviction, nous trouverons toujours des gens qui veulent nous en empêcher. Lorsque nous avons une conviction, lorsque nous avons quelque chose qui vient du Saint-Esprit, il y aura toujours des gens qui vont nous mettre en garde. Ne fais pas ci, ce serait trop cher, ça ne marchera pas, etc. Et cette conviction, elle doit être éprouvée. Croyez-moi que lorsque Paul arrive aux portes de Jérusalem, ce qu'il avait dans son cœur, ça a été vraiment éprouvé une fois, deux fois, trois fois, dix fois, cent fois. Ça a été mis à l'épreuve. Et il ne va pas rentrer à Jérusalem comme ça, à la légère. Il est préparé dans son cœur. Il sait que quelque chose est juste de la part de Dieu et il va être à l'écoute de Dieu tout en avançant dans tout ce qui va se passer. Alors, nous ne voulons pas entrer en matière dans tout ce que Paul a vécu. Parce que Paul va dire, je suis prêt même à mourir à Jérusalem, tant son amour. Frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi certaines personnes s'engagent dans des choses qui sont difficiles et qui leur coûtent tellement? Mais c'est l'amour qui tire. L'amour est plus fort que tout. L'amour pour le Seigneur, faire des décisions qui nous semblent insensées parfois. L'amour pour Dieu, l'amour pour les âmes, l'amour pour un peuple, l'amour pour une tribu, l'amour pour quelque chose de la part de Dieu est tellement fort que ça va au-delà de toutes les limites. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a de l'amour dans notre cœur pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une tribu, même si petite soit-elle? Il nous faut, comme Paul, avoir ce cœur rempli de l'amour. L'amour de Dieu qui a été versé dans son cœur par le Saint-Esprit, nous l'avons aussi entendu tout à l'heure. Il veut donc encore une ultime fois. Et l'apôtre, le Seigneur va lui dire dans Actes 23, 11, il va dire à un moment donné, Paul, voilà, l'étape suivante, c'est celle-ci. De même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, donc le Seigneur a approuvé ça, hein, de même que tu as rendu témoignage à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage à Rome. À partir de là, donc il arrive à peine à Jérusalem, donc toute la ville sera en émoi, sa présence va faire réagir les gens religieux et toute la population qui va être en émoi, il va être lié, etc. Le texte nous décrit tout cela en détail. Et il va être mis en prison, d'abord auditionné par le tribunal de Sanhédrin, et ensuite il sera transféré vers Césarée, qui est à la côte et qui est donc l'endroit de l'autorité romaine. Et il va rester en prison pendant 2 ans. Dieu lui a parlé. Et en attendant, sur le chemin vers Rome, déjà 2 ans de prison pour commencer. Il ne peut rien faire. Il est lié pendant 2 ans. C'est marqué 2 ans. Hein, c'est marqué dans chapitre 24, verset 26, 27. 2 ans de prison, bloqué dans un ministère international, on va dire, avec beaucoup de fruits, beaucoup de résultats. Il est bloqué pendant 2 ans. Il est dans le plan de Dieu. Et là, à partir de là, va à un moment donné se passer des choses où il ne peut plus rien maîtriser. Frères et sœurs, il y arrivera dans votre vie des choses où vous ne pouvez plus rien maîtriser du tout, du tout. Quand vous vous mettez entre les mains d'un médecin ou d'un chirurgien pour une opération, vous ne maîtrisez plus rien. Vous êtes sur un brancard, vous êtes sur une table, on vous met une injection de quelque chose, vous êtes parti. Vous ne maîtrisez rien. C'est les autres qui maîtrisent pour vous. Il y a dans la vie multiples situations où nous ne maîtrisons rien du tout. Et Paul, tout l'apôtre qu'il est, en pleine extension de son ministère, appuyé par les prophéties, dans le plan de Dieu, il n'a pas raté le plan de Dieu, il est lié et il est transféré via un bateau qui va partir de Césarée pour aller à Rome. Il est lié en tant que prisonnier. Donc le voilà sur le bateau, un bateau à voile, comme tous les bateaux de l'époque. À bord, il y a, nous dit la Bible, en tout et pour tout, 276 personnes. Je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que quelqu'un a compté tous les passagers? Il a regardé dans tous les moindres recoins du bateau, en passant du premier pont jusqu'au dernier, jusque dans les cales, etc. On a recensé 276 personnes. La seule réponse que j'ai trouvée, c'est que Dieu s'intéresse à chacun. Dieu s'intéresse à chacun. Il n'y en a pas un qui a pris une valeur différente qu'un autre. Le capitaine n'a pas plus de valeur que le simple matelot. Et le prisonnier a autant de valeur que celui qui est libre, que le centurion et d'autres. Dans ces 276 personnes, toutes précieuses aux yeux de Dieu, se trouvent 3 chrétiens. Leurs noms nous sont donnés. Aristarque, Luc et Paul. Luc va écrire d'ailleurs ce texte. Paul est prisonnier, ses mains sont liées. Mais alléluia, le projet de Dieu n'est pas lié. Le plan de Dieu, c'est comme ce train qui est en route, on ne peut pas l'arrêter. Il avance. Paul est prisonnier, il ne peut rien faire, il ne peut rien maîtriser, mais le plan de Dieu est parfaitement en contrôle de tout. Dieu dirige. La saison et la navigation sont difficiles et dangereuses. Au verset 10 du texte, il nous est dit, « Paul, dans sa situation de prisonnier, ne maîtrisant plus rien, il est au top de sa forme spirituelle. » Alléluia. Frères et sœurs, lorsque vous êtes quelque part et que vous êtes au fond, à fond de cale, comment est votre forme spirituelle? Lorsque Joseph était dans sa prison, lui aussi a été 2 ans en prison. parce qu'il a été faussement accusé. Mais dans sa prison, il était en forme spirituelle. Il n'a pas dit, oh pauvre de moi, c'est fini. Pourquoi Dieu permet-il? Parce que lorsqu'on viendra le chercher, il a le don de révélation qui fonctionne immédiatement. Et lorsque Paul est dans cette équipe, il se demande peut-être, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Pourquoi tout ça m'arrive-t-il? Peu importe, il surpasse ces questions parfois existentielles. Et il a dit, Seigneur, quoi qu'il arrive, je n'arrêterai pas de chanter, je n'arrêterai pas de prier, je n'arrêterai pas de lire ma Bible, je n'arrêterai pas de louer ton nom et de confesser le nom de Jésus. Je reste en communion avec toi, quoi qu'il arrive. Et lorsqu'il est en train de, dans ces étapes que vous lirez dans le texte, lorsqu'ils partent de port en port, à un moment donné, au verset 10, il est dit, Paul dit, je vois que cette navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais aussi pour nos personnes. Il avait reçu une révélation au milieu de son état de prisonnier. Mon frère, ma sœur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux recevoir la parole de Dieu, la révélation de Dieu, où que tu habites et quelle que soit ta condition, même si tu te sens oublié de tous, même si tu es au fond, à fond de cale, même si tu es prisonnier de quelque chose, tu peux encore entendre la voix de Dieu. Amen. Tu peux encore l'entendre. Paul a un atout en tant que chrétien. Nous ne savons pas si ces 273 autres, certains étaient convertis ou pas. En tout cas, il y avait 3 chrétiens à bord sur une grande majorité d'inconvertis. Et ces 3 chrétiens avaient un atout, ils avaient l'esprit. Et ils voyaient des choses que les autres ne voyaient pas. Alléluia. Dieu te place dans un environnement pour que tu vois des choses, pour que tu entends des choses que les autres ignorent. Et viendra le moment, mon ami, où tu pourras les dire et on va t'écouter. Mais ce n'est pas tout de suite qu'on va voir ça. Il nous est dit dans la suite du texte, que le centenier, le pilote, le capitaine n'ont pas tenu compte de la parole de Paul. Imaginez, Paul est un prédicateur international, connu dans tout l'Empire pratiquement. Le voilà sur ce bateau, et ils ont la chance d'avoir dans l'équipage de ce bateau l'homme célèbre, l'apôtre Paul, le grand prédicateur qui a voyagé, qui connaît, qui est un excellent prédicateur, un homme de Dieu. Et personne ne l'écoute, son auditoire est réduit à zéro. C'est bon pour l'humilité, ça. Simple prisonnier, il n'a rien à dire, et c'est les pilotes qui disent à sa place. C'est nous qui commandons ici, c'est nous les maîtres, c'est nous qui avons l'expérience, c'est nous qui connaissons, et c'est donc eux qui vont décider ce qu'on va faire. Bientôt, la tempête va se lever, comme Paul l'avait dit. Le bateau ne peut plus rien, il ne peut qu'aller qu'à la dérive. Et pour ne pas sombrer, le bateau va perdre. On va jeter par-dessus bord les cargaisons, on va jeter par-dessus bord tout ce qui sert à amarrer les marchandises, les agrès, etc. De plus en plus, il ne reste plus que la nourriture. Le bateau est léger, perdu. La situation est tellement difficile. Il nous est dit qu'il n'y a plus de soleil, plus d'étoiles pour se repérer, pour savoir comment avancer dans cette situation en tant que direction du bateau. Pendant plusieurs jours, ça ne s'arrête pas. Et nous avons finalement perdu même l'espérance. Frères et sœurs, dans cet équipage de 276, tout le monde a perdu l'espérance, sauf celui qui est à l'écoute de la voix de Dieu. Sauf celui qui est en communion avec la personne du Saint-Esprit. Lui va devenir, il va partir de son statut de prisonnier, il va devenir le pilote de toute cette affaire. Ça, c'est intéressant. Mes amis, ce que j'ai remarqué dans ce texte, et lorsqu'en notre lecture, nous avons remarqué que Paul, lorsqu'il va se lever là au milieu, lorsque le niveau espérance est arrivé au point zéro, il va se lever et tout à coup, tout le monde va l'écouter. Il arrivera un moment où des personnes qui sont autour de nous et qui ne veulent pas nous écouter, qui n'écoutent pas notre témoignage, qui ne nous reçoivent pas, qui se moquent de nous, qui se rient de nous, qui nous négligent, qui trouvent que nous ne sommes pas du même milieu qu'eux, nous ne sommes pas des mêmes tribus qu'eux, et ils ont l'impression qu'on est à part, qu'on est une quantité qui ennuie les autres. Parfois, j'ai entendu que des chrétiens Eh bien, parce qu'ils étaient là, les autres n'osaient pas jurer, n'osaient pas boire, n'osaient pas dire certaines choses, uniquement à cause de la présence du chrétien qui ne disait pourtant pas grand-chose. Et la présence des chrétiens, on est allé m'en donner vers eux. « Écoute, tu nous embêtes parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire à cause de ta présence. On aimerait se lâcher, mais on n'ose pas le faire parce que tu es là. Vous êtes sel de la terre et lumière du monde, et le monde autour de vous, alors que vous êtes dans le monde, mais pas du monde, vous avez une influence. Et maintenant, Dieu va donner de l'influence à Paul, car il est là, dans cette histoire, prisonnier, lié. Il ne peut pas maîtriser les choses, mais il est là dans un temps comme celui-ci. Il est là dans le temps de Dieu, il est là dans l'opportunité du Seigneur, pour une raison. Mes amis, et cette raison est la suivante. C'est que Dieu n'aime pas seulement Paul. Dieu ne prend pas seulement soin de Paul et de Luc et d'Aristarque, des trois chrétiens. Dieu aime tout l'équipage, alléluia. Dieu veut sauver tout l'équipage. Et toi, mon frère, tu es aussi dans un équipage quelque part, et Dieu veut sauver ton équipage. Je ne sais pas quel est le nom de ton équipage, si c'est ta petite famille, ou ta grande famille, ou ton lieu de travail, mais quelque part, tu es dans un équipage, tu es dans un bateau avec d'autres. Et tout le bateau ensemble, tu ne peux pas t'en démarquer, tu es dans le bateau avec les autres. Et tu subis les mêmes choses, et tu vis les mêmes choses. Paul a eu le mal de mer. Paul a eu faim, Paul a été chamboulé, il ne pouvait pas tranquillement lire sa Bible à la lueur d'une bougie dans ce bateau chahuté. Il a été là, il a été malmené comme les autres, mais sa vie a été différente et au bon moment, il a pu dire quelque chose. Et tout le monde l'a écouté. Mon frère, ma sœur, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que quand l'opportunité se place et arrive vraiment, il faut avoir quelque chose à dire. À un moment donné, les gens viendront. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas trop. Il y a des chrétiens qui sont parfois mis sur le devant et on attend une réponse de la part du chrétien. Malheureusement, le chrétien n'a rien à dire. Ou il dit des futilités, il dit des choses qui n'ont pas d'impact, qui ne sont pas pertinentes. Frères et sœurs, nous devons nous préparer aujourd'hui. Parce que demain, nous serons peut-être dans une situation T, à un temps défini, où nous devrons dire quelque chose. Regardez ce que Paul dit. Premièrement, il dit, « Ah, vous auriez dû m'écouter. » C'est la première chose qu'il dit. Mais il ne va pas faire une leçon de morale. Il va juste dire cette phrase, « Vous auriez dû m'écouter. » Il leur fait un tout petit peu la morale quand même, mais juste une phrase. Quand vous faites la morale à votre enfant, à votre supérieur, à votre inférieur, quelle que soit la personne à qui vous dites « Ah, tu vois que j'avais quand même raison, hein ?» Et puis vous appuyez, et puis vous dites « Tu vois, et vous essayez de l'humilier quand même un peu pour dire que vous aviez raison. » Paul va le faire, mais très courtement. « Vous auriez dû m'écouter et obéir. » Point. Il s'arrête là. Son reproche est très court. Il va dire « Prenez courage. » 2. « Aucun ne se perdra. » 3. Dieu m'a montré qu'il y a une grâce sur tout le bateau. 4. Dieu m'a montré que je vais comparaître devant César. 5. Il va dire, le bateau sera perdu. Et 6. Il va dire, je sais qu'il en sera comme il m'a été dit. Il est sûr d'entendre la voix de Dieu. Frères et sœurs, lorsque vous entendez la voix de Dieu, vous ne devez pas bricoler une voix intérieure de vous-même. Vous devez être sûr de l'avoir entendue. Et si vous êtes aujourd'hui sûr de l'avoir entendue, c'est parce que vous avez l'habitude de l'entendre. Paul a l'habitude, même dans les 2 ans de prison en Césarée, il est resté en communion avec le Seigneur, en disant « Seigneur, je suis bloqué ici à Césarée, je ne sais pas quand on viendra me chercher, est-ce que ça va encore durer, je ne sais pas. » D'ailleurs, il y a le premier gouverneur qui arrive, après lui va être changé, le deuxième arrive, après il y a un roi qui arrive, il a différentes occasions de témoigner, mais il ne sait pas ce qu'il va devenir, mais il reste en communion avec le Seigneur. Reste en communion aujourd'hui, car demain Dieu aura besoin de toi. Quand tu ne te douteras même pas, il va t'élever pour que tu aies un message pour tout ton équipage, pour toute ton équipe de bureau, pour toute ta famille. Tu auras un message et tu seras entendu. Tu seras entendu. C'est lui qui deviendra le pilote. Il a quelque chose parce qu'il est profilé dans sa réponse. Il n'est pas comme Jonas, cet autre passager de ce bateau qui était en fuite. En fait, il était en fuite pour ne pas entendre la voix de Dieu, pour l'étouffer. Et on a dû venir le chercher à fond de cale, lui qui dormait. Et toi là, pourquoi tu ne pries pas comme les autres ? Jonas était l'anti-Paul, l'opposé de Paul. Il fallait vraiment le chercher. Il n'y a pas encore quelqu'un là. Il paraît qu'il y a un chrétien là. On va un petit peu le chercher. Et puis il se réveille tant bien que mal. Il dit, je ne sais pas, je suis en train de fuir devant Dieu. Je sais pas, j'ai rien à dire. Il est muet. Tandis que Paul, il avait une parole. Et ce que je suis parfois triste, frères et sœurs, c'est que nous avons des occasions, mais nous n'avons pas grand-chose à dire. On n'a pas de réponse. Frères et sœurs, nous devons avoir des réponses aux problèmes des gens d'aujourd'hui. On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais on a des éléments de réponse quand même. Lisons notre Bible. Quand parfois il y a une confrontation entre musulmans et chrétiens, je suis parfois étonné de voir que les chrétiens n'ont pas grand-chose à dire face à des musulmans qui semblent très convaincants. Et pourtant, ils n'ont pas la vie de l'esprit. Arrêtez. Ils n'ont pas la vie de l'esprit. Nous avons des réponses à donner. Et Paul va donner du courage à ces hommes. Il va dire, je sais où on va aller. Je sais que rien ne va s'opposer parce que je dois arriver à César, donc je vais arriver et vous avec moi. Mais attention, le bateau sera perdu. Et ce que je voudrais vraiment faire passer dans ce message ce matin, c'est que l'amour de Dieu cherche à toucher tout l'équipage. Tout comme Esther, Dieu cherchait pas seulement à sauver Esther et Mardoché, mais tous les Juifs. Du temps des amis de Daniel, Dieu voulait sauver tous les Babyloniens, il voulait les toucher en tout cas. Ici, Dieu veut sauver tout l'équipage. Dieu aime tout l'équipage, même ceux qui ont lié Paul, même ceux qui ne sont pas gentils. Dieu aime, veut sauver tout l'équipage. Parfois, le chrétien passe dans la souffrance et la détresse parce que quand vous êtes dans le même bateau que les autres, les gens vous écoutent. Chaque fois que j'ai été dans les mêmes chaussures que quelqu'un, chaque fois que j'ai vécu des choses similaires à quelqu'un d'autre, bien mon témoignage passait beaucoup mieux. Je ne peux pas oublier, lorsque, en 1987, lorsque ma femme était à Marseille dans un foyer pendant 2 mois, pendant que notre enfant était à l'hôpital universitaire pendant ces 2 mois en couveuse, eh bien dans ce foyer où elle habitaient toutes sortes de personnes du pays qui se retrouvaient là pour visiter leurs malades dans les hôpitaux marseillais. Et le fait que tout le monde était dans la même barque, que tout le monde était logé à la même enseigne, tout le monde avait les mêmes problèmes et tout le monde souhaitait la même chose, c'est-à-dire la guérison de leur bien-aimé. À cause de cela, nous avions, et elle avait surtout, des occasions quotidiennes de témoignage. Et on recevait son témoignage parce qu'elle vivait les mêmes détresse que les autres. Paul était dans la même détresse que les autres, il a souffert comme les autres, c'est pourquoi son témoignage passe. Quand vous êtes dans les mêmes chaussures que les autres, votre témoignage, il passe. C'est pourquoi parfois les chrétiens passent par des détresses difficiles et même très dures. Et cette détresse où Dieu a permis que ce bateau aille jusqu'au bout de lui-même, que l'équipage arrive au bout de lui-même, où tout le monde a perdu espérance, parfois, les gens doivent arriver au bout d'eux-mêmes pour écouter l'Évangile. Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui ont reçu Jésus parce que quelque part dans leur vie, ils étaient au bout d'eux-mêmes? Je suis sûr qu'il y a plein de mains qui peuvent se lever. C'est à cause du fait qu'on était au bout de soi-même, qu'on était ouvert à l'Évangile. Et ces 273 autres ont été ouverts à l'Évangile pour écouter Paul parce qu'ils arrivaient au bout de leur espérance. Il n'y avait plus rien après. La sagesse du monde est perdue, toutes les boussoles sont, les repères sont par terre. Et là, les gens écoutent. Mon père avait un ami qui était fermier comme lui, et ils étaient très proches. Et lorsque ma mère s'est convertie, elle avait sa Bible sur sa petite table à côté de son fauteuil. Et cet ami arrivait très souvent à la maison. Et lorsqu'il a vu cette Bible la première fois, il a éclaté en rire. Il dit, mais c'est pas possible, tu lis la Bible ? Je vous rappelle que dans notre village, il n'y avait pas de Bible, les gens n'avaient pas de Bible. Et donc il se met à rire parce qu'il y a une Bible. Et puis le temps a passé, et mon père est décédé, puis cet homme était à l'hôpital l'année d'après, également atteint d'un cancer très grave. Et nous étions en vacances cette année-là, et avant de partir prendre l'autoroute, nous passions dans la ville où il était à l'hôpital. Et je n'ai jamais visité cet homme autrement, mais j'ai senti que, avant de prendre l'autoroute, je devais juste m'arrêter, voir s'il était encore là. Donc j'arrive à l'hôpital, je demande son nom et j'arrive dans sa chambre, il était là. se réjouit de me voir. Et à cause de sa détresse, à cause de son cancer, il savait qu'il était en fin de vie. Eh bien, j'ai eu une occasion tout à fait unique. Et il avait un cœur ouvert et réceptif pour que je prie avec lui. C'était donc la dernière fois que je l'ai vu. Parfois, quand Dieu nous donne une occasion, frères et sœurs, il faut être prêt. Si Paul avait craqué durant ce voyage, il a dit, ça sert à quoi? Ça va de plus en plus mal pour moi. Maintenant, j'ai été persécuté à Jérusalem. 2 ans de prison à Césarée. Maintenant, je suis en route vers Rome. Bon, Seigneur, merci, parce que tu vas garder ce voyage. Et puis maintenant, il y a un naufrage terrible, mais c'est la fin de tout, c'est la fin des haricots. Si Paul avait craqué, il avait dit, mais ça ne sert à rien de... Seigneur, tu vois, tout le ministère que j'ai exercé pendant les 3 voyages missionnaires, j'ai fait tout, et tout ce que j'ai écrit, et ça ne sert à rien. S'il avait craqué à ce moment-là, tout l'équipage aurait été perdu. Tout l'équipage aurait été perdu. Votre présence au milieu des autres, c'est d'être lumière et sel, d'être une conscience, une voix qui éveille la conscience des autres. Je termine par une dernière pensée. La Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Donc Dieu aime cet équipage, il est patient, il retarde son jugement. Il aurait pu permettre que finalement tout se termine dans l'eau et dans la noyade, mais il avait compassion de cet équipage et il a permis que Paul soit au bon moment dans ce bateau, qu'il traverse l'épreuve avec eux, parce que Dieu est patient et ne veut pas juger tant qu'il y a encore une espérance de salut. Maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, nous dit 2 Thessaloniciens 2:5. Le mystère de l'iniquité agit, il faut seulement celui qui le retient encore est disparu. Après viendra l'Antichrist. Frères et sœurs, notre présence retient le jugement. Amen. Notre présence dans ce monde retient le jugement de Dieu. Et nous avons encore quelque chose à faire. Et lorsque les gens auront entendu et prendront une décision, après viendra le jugement. Nous avons une grande responsabilité. 276 personnes vont être sauvées physiquement. Le bateau sera perdu, vous lirez toute l'histoire. Il débarque sur Malte. Sur Malte, il y aura de nouveau des miracles. Les gens seront touchés une deuxième fois par le ministère de Paul. Il y aura une guérison également sur cette île de Malte. Imaginez-vous, lorsque les nouvelles vont faire le tour de l'Empire romain, un bateau romain a été perdu en mer suite à une tempête violente. Il n'y a pas de survivants. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils ont disparu des radars. Et tout à coup, on sonne à la porte. Un grand sourire. Je suis là, j'ai été sauvé. Imaginez-vous ces 276 personnes qui arrivent et chez eux et qui vont donner des nouvelles alors qu'on les croyait morts. Ils sont vivants, alléluia. Et il y a des frères et sœurs qui sont vivants parce que Dieu les a sauvés alors qu'on les croyait morts. Il y a des gens dans votre équipage qui ont besoin de vous et c'est à vous de sauver avec le Seigneur tout l'équipage. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais encore terminer. Le temps a passé. Et nous voulons véritablement nous présenter devant le Seigneur. Est-ce que tu te soucies de ton embarcation? Est-ce que tu as avec toi tout l'équipage? Ou est-ce que tu te dis, c'est pas mon affaire, c'est leur responsabilité? Dieu te dit, tu as aussi une part de responsabilité là où je te place. Seigneur, nous nous plaçons devant toi. Je te remercie pour cette expérience de l'apôtre Paul. Seigneur, cette expérience détaillée de ce naufrage nous a été laissée dans la parole pour une raison. Afin que nous soyons inspirés aujourd'hui de savoir que c'est pour un temps comme celui-ci que nous sommes dans ce monde. Seigneur, nous sommes dans ce monde comme un temps, comme celui-ci, pour que d'autres soient encore sauvés. Seigneur, je te prie que l'équipage dans lequel nous sommes, peut-être un tout petit équipage, un petit groupe, une petite famille, ou des groupes importants. Seigneur, nous voulons que, comme Paul avait reçu, aucun ne sera perdu, tous seront sauvés. Car je sais que je vais arriver à destination parce que Dieu tient ma vie entre ses mains. Et lorsqu'il me conduit à destination, eh bien vous aussi, vous m'accompagnerez et vous avez votre chance. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, Seigneur, ce matin, afin que, Seigneur, tous nos équipages soient sauvés. Même si des choses doivent se perdre, Seigneur, si on doit être délesté de certains bagages, certaines choses encombrantes qui nous empêchent, Seigneur, ou qui par la détresse nous dépouillent automatiquement, Seigneur, je te prie que même les souffrances et les détresses ne soient pas un obstacle au salut. Au nom de Jésus, je prie que comme Paul, nous puissions tous, les uns et les autres, garder une communion vivante avec toi, que nous soyons remplis de l'Esprit et que nous soyons de ceux qui ont quelque chose à dire, à répondre, Seigneur. Nous soyons la réponse pour ceux qui, Seigneur, tendent leur main vers nous pour dire, mais toi, tu as l'espérance, tu es chrétien, tu connais Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Où va le monde? Seigneur, nous avons des choses à dire. Et je te prie ce matin que dans l'Église, Seigneur, il y ait beaucoup de personnes qui ressemblent à Paul. Seigneur, qui aient de l'assurance, qui ne font pas la morale aux autres seulement, mais Seigneur, qui ont quelque chose, une bénédiction à transmettre dans le nom de Jésus. Hallelujah.